franceinter.fr.
France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Troisième étape drômoise et aujourd'hui nous allons dans une oasis dans le fameux territoire de la Biovallée dont je vous ai parlé hier, au milieu du département. L'oasis n'est pas ou ne sera pas, car elle est pour l'instant l'état de projet, le résultat d'un réchauffement climatique. L'oasis, tel que son concepteur et premier invité Samuel Bonvoisin l'a défini, sera un système agronomique à étages, réservoir de production de fruits, de légumes, de plantes aromatiques et médicinales ou de champignons. Ce concept est connu sous un autre nom de forêt comestible, nouveau venu dans la panoplie des nouveaux modes de production alternatifs. Comme je vous sais curieux, Samuel va vous préciser dans un instant la teneur de ce projet inédit. Ensuite, changement de problématique avec cette fois l'éducation des enfants. Et comme toujours, nous allons développer avec Pascal Marconato une pratique pédagogique singulière puisqu'elle propose aux enfants des séjours citoyens lors des vacances scolaires. L'association qui organise ces drôles de colos s'appelle Cité d'enfants, cité au pluriel, enfants aussi évidemment, car il s'agit de responsabiliser chaque enfant dans la construction d'une mini-société. Pascal, fondateur et directeur des Cités, sera donc notre second invité dans cette drôme qui n'en finit pas de nous surprendre.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Samuel Bonvoisin, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Samuel, vous annoncez un projet. Je ne connaissais pas encore le concept, donc on est heureux de vous avoir en ligne. Le projet que vous avez baptisé l'Oasis de Serendip, alors, ou Serendip, si on veut, à Cray. Serendip, d'abord, une explication sur ce nom.
Donc Serendip, c'est l'un des anciens noms du Sri Lanka.
Oui.
Et c'est surtout un nom qui est tiré d'un conte perse, hein, le conte des trois princes de Serendip, qui vous inspire beaucoup.
Et alors, ce que vous créez avec cette oasis, c'est une forêt comestible. Qu'est-ce que c'est une forêt comestible ?
C'est une méthode d'agriculture qui est tout à fait récente dans l'histoire, que nous allons tenter d'importer en France. Il y a très peu d'exemples en France de forêts comestibles. C'est un mode qui s'appuie d'abord sur une observation de la nature. Donc, on part de l'observation que si on laisse la nature évoluer, en France et dans les pays tempérés, on obtient une forêt.
Ouais.
Donc une forêt qui est complexe, qui est une forêt à 7 étages. Et donc on fait le pari que cette forêt, qui est l'état le plus stable de végétation, pourrait être un bon support pour une activité agricole, si on la fait évoluer un petit peu en faveur de productions qui sont utiles à l'homme.
Ouais, mais alors quand vous parlez de 7 étages, c'est un empilage de couches ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a donc tout en haut les grands arbres, tout en bas toute la flore et puis aussi la faune qui vit. Et puis entre deux, il y a 7 étages. 6 étages horizontaux et un étage vertical, celui des lianes et des plantes qui grimpent.
Vous avez expérimenté déjà beaucoup de choses avant de vous lancer dans ce projet et vous avez suivi récemment une formation permaculture. La permaculture est compatible avec la forêt comestible ?
Oui, tout à fait. Ce sont les permaculteurs, les pionniers, hein, depuis à peu près une trentaine d'années, qui ont fait ce travail d'observation. La permaculture, c'est d'abord essayer d'être avec la nature et non pas contre elle. Et en agriculture, c'est vraiment important en ce moment pour nous d'essayer de penser de cette manière.
Et donc là, ce que vous projetez à travers l'oasis de Serendip, c'est une production donc à plusieurs étages, en hauteur, en bas, voire en sous-sol. Et alors, quel type de production vous allez établir sur ce concept-là ?
Donc notre idée, c'est de produire des fruits, des légumes aussi, des plantes aromatiques et médicinales, et puis aussi des champignons, et essayer par toutes les manières possibles de rendre cette forêt utile.
Vous avez quelle superficie pour réaliser ça ?
Alors on est en train de s'engager sur l'achat d'un lieu, donc en Basse-Vallée de la Drôme, hein, sur le territoire de la Biovallée. On s'engage sur, au démarrage, 2 hectares de forêt.
Oui.
Et puis si ça fonctionne bien, on pourrait aller jusqu'à 4 hectares environ.
Et vous avez des aides pour accéder au foncier ?
Alors ça, c'est une des grandes difficultés aujourd'hui, d'ailleurs, quelles que soient les régions.
Oui.
Nous, on fait le choix de s'appuyer sur un achat collectif. Donc on lance en ce moment un appel aux personnes qui souhaiteraient nous aider à accéder au foncier à travers soit de l'épargne solidaire, un investissement solidaire, et puis aussi à travers une campagne de financement participatif.
Alors, deuxième temps de l'expérience, c'est qu'il y a la forêt comestible, mais aussi un terrain qui sera ouvert à la cueillette, donc pour le public, selon la méthode des incroyables comestibles.
Oui, tout à fait. Donc, les incroyables comestibles, c'est ce mouvement qui est né en Angleterre, qui incite chaque citoyen à s'emparer de la question d'alimentation, et puis aussi à proposer devant chez lui des plantes à partager, de la nourriture à partager. Et donc notre intention, c'est de faire que au moins une partie de cette forêt comestible soit ce lieu où chacun puisse gratuitement venir profiter des fruits de la forêt.
Et même séjourner éventuellement dans ce territoire.
Oui, le projet de l'Oasis de Sérendip, c'est aussi d'accueillir les gens pour une découverte des beautés de la vallée de la Drôme et puis profiter de cette forêt en séjournant dans le lieu.
C'est un nouveau tourisme quand même qui s'annonce, on est loin des autoroutes des vacances là.
Oui, alors c'est un nouveau tourisme et en même temps c'est aussi déjà un chemin qui a été emprunté par beaucoup, d'essayer de proposer des vacances, on va dire, responsables, où on s'intéresse à la nature qui nous entoure et on essaie d'apprendre dans un espace ludique, mais aussi d'apprendre sur un temps qui est dédié plutôt à la consommation. Nous, on voudrait en faire un lieu où on puisse apprendre intelligemment.
Prévision d'ouverture, vous avez déjà une idée ?
On espère pouvoir ouvrir au printemps 2016. Donc ça, c'est au cas où on arrive à pouvoir accéder au lieu et à acheter au premier semestre 2015.
Très bien. Si vous voulez en savoir plus, pourquoi pas y participer aussi, vous le pouvez. C'est à Cray, c'est fondé par Samuel Bonvoisin et Jessica. Et le site, c'est oasisdeserendip.net. C'est une adresse qui va s'afficher à notre page Carnet de campagne sur franceinter.fr. Merci Samuel.
Merci beaucoup Philippe Bertrand.
Et bonne route. Je n'ai pas l'habitude de mettre en avant les agences de tourisme, mais je vais faire une exception aujourd'hui avec une idée savoureuse, un peu nostalgique, plutôt bucolique et finalement un peu éco-responsable, dans la Drôme. Scout Nomade. Le brin nostalgie se retrouve dans les lignes de présentation du créateur. Je cite « L'enfance familiale sans voiture, la mobilette, l'engin tout faire, assis sur le porte-bagages, des parfums d'humus qui enrobent les voyages vers la ferme des grands-parents. Au retour, la petite remorque tractait la brave mobilette qui débordait de légumes fermiers. Désormais, il s'agit pour le deux-roues d'un scooter. La remorque contient un kit de camping complet et le carnet de route qui est remis à chaque personne trace un périple vers les immanquables de la Drôme provençale. Au regard des commentaires des personnes qui ont testé ce programme à la carte, il semblerait que le concept plaise vraiment. Liberté de composer son parcours, de le suivre à son rythme, prendre le temps de flâner, de pratiquer un camping sauvage ou organisé, c'est selon. Le site, c'est scout-nomade.com. Bonjour Pascal Marconato.
Bonjour Philippe Bertrand.
Pascal, vous êtes le fondateur et le directeur d'une drôle d'association, Cité d'enfants, cité au pluriel d'enfants aussi, c'est à Nyons. Alors l'histoire ou l'aventure commence en 2004 ?
L'aventure commence en 2004 avec la construction à Nyons d'un nouveau centre de loisirs intercommunal et ça nous a donné l'occasion d'inventer un concept pédagogique, d'inventer une manière de faire avec les enfants pendant leurs vacances. Et on a appelé ça une cité d'enfants.
Oui. Là elles sont au pluriel parce que vous avez essaimé depuis ?
C'est ça. Depuis, on est allé ailleurs, on a une forme associative. Du coup, nous avons partagé ce concept, nous l'avons développé avec des partenaires, dans des lieux un peu partout sur le département, y compris en région Rhône-Alpes.
Alors le concept des cités d'enfants est quand même assez extraordinaire, parce qu'on a quelques expériences d'approche de l'entreprise dans le secondaire, mais là, avec les enfants, vous leur proposez de créer une sorte de mini-société.
C'est ça, une mini-société utopique et éphémère dont ils sont fondateurs et habitants, c'est ça l'idée. Alors la cité d'enfants, c'est un peu un séjour de vacances particulier, une sorte de colo où on pratique la citoyenneté active. Et donc on propose aux enfants d'inventer et de vivre après leur cité. Voilà, ça l'idée.
Oui. Mais alors, pour toute invention, il y a un cadre, il y a un règlement, il y a une méthode. Alors, est-ce que vous avez développé tous ces accessoires ?
Alors oui, Cité d'enfance est aussi une boîte à outils qu'on applique avec effectivement nos publics, mais aussi qu'on partage avec des professionnels dans le cadre de formation ou dans le cadre de ce qu'on appelle des sites pilotes. Mmh. Il y a notamment ce qu'on appelle les journées bâtisseurs. Les journées bâtisseurs, c'est quelque chose de très important, c'est un temps de préparation pendant lequel les enfants vont faire connaissance, ils vont visiter les lieux, puisqu'on est dans une construction symbolique, c'est-à-dire que la cité d'enfants peut se construire dans toutes sortes de lieux, une salle des fêtes, un gîte, autour d'un centre de vacances, d'une aire de camping, avec des ajouts d'équipements de tipi, yourtes, etc. Donc ça, les enfants le savent à l'avance. Et alors après, c'est la construction qui commence, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'on appelle les journées bâtisseurs. Et les journées bâtisseurs, c'est ce temps de préparation, ils vont visiter les lieux, ils vont décider ensemble de l'identité, de l'organisation du territoire et du fonctionnement de leur cité. Alors pour ça, ils vont se mettre en équipe de métiers, des architectes, des appeleurs, des décorateurs, des organisateurs, et ils vont concevoir leur cité à eux. Et donc là, c'est déjà un premier outil. Alors il y a aussi le fait que c'est une démarche démocratique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que chaque groupe de métier décide dans leur coin. Va être chaque fois négocié en coopération avec l'ensemble du groupe dans ce qu'on appelle un forum.
Pascal, alors, les enfants ont quel âge et quelle est la durée de cet exercice quand même assez incroyable ?
Alors, ça peut durer de 10, 15 jours. Ça peut aussi s'appliquer sur des fonctionnements permanents, hein, c'est-à-dire des centres de loisirs peuvent très bien utiliser cette formule. C'est le cas avec des partenaires à Oullins. Alors, quel âge ils ont ? Ils ont entre 6 et 12 ans, mais la formule pédagogique, elle est déclinable. On peut la décliner avec des ados et même avec des jeunes.
Et à propos de démocratie reconstituée, c'est comme, ou créer, vous savez que c'est la préoccupation actuelle, c'est la qualité de la représentativité via la démocratie. Alors, est-ce qu'il y a une élection ? Est-ce qu'il y a un chef désigné au sein de cette mini-société ?
Pas forcément. On est plutôt dans une démocratie participative, mais parfois il peut y avoir des formes de représentation comme des conseils. Quand les groupes sont nombreux, il peut y avoir effectivement des délégués, donc du coup des élections. Et là on initie avec des enfants plusieurs types de nominations. Ça peut être au hasard, ça peut être une élection par désignation, ça peut être sur plusieurs modes possibles.
Et puis une dernière chose, j'imagine en vous entendant que vous inspirez de méthodes éducatives, en particulier une méthode Freinet.
Oui, tout à fait. Freinet et dans son prolongement la pédagogie institutionnelle de Fernand Houry. Et actuellement, alors on est rattaché au réseau qui s'appelle le réseau des pédagogies de la décision. L'idée, c'est quand même de travailler sur la capacité de décider des enfants, quoi. Donc la décision, c'est les mettre en situation de décider et d'agir sur ce qui les concerne. C'est ça l'idée. Alors les pédagogies de la décision, c'est dans la lignée des pédagogues Jean Housset et Jean-Marie Bataille. Voilà.
Très bien. Cité d'enfants, le tout au pluriel, hein, citédenfants.com pour l'adresse. Et puis vous organisez aussi des rencontres, les rencontres éduquées autrement. Samedi 6 décembre à Mirabel au Baronnie, quel beau nom, à salle des fêtes. Enfants et écrans avec Serge Tisseron et Philippe Mérieux. Vous aurez le détail de ces rendez-vous et de ce rendez-vous, entre autres, sur le site de la Cité d'enfants. Merci Pascal.
Merci Philippe.
Bonne journée.
Au revoir.
Et comme d'habitude, juste avant de nous séparer, je vous rappelle les prochaines destinations à partir desquelles vous pouvez nous envoyer vos cafetages ou vos dénonciations positives des voisins qui en valent le détour. Les Pyrénées-Orientales la semaine prochaine, ensuite l'Hérault, le Tarn et la Gironde. Et tout de suite, nous rejoignons Nicolas Stoufflet à Saint-Uze pour le jeu des 1000 euros.